Philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 12 novembre 85.
Nous avons essayé de rappeler comment la philosophie morale, l'éthique, était née dans tout le courant de la philosophie grecque. Et nous avions vu que, de fait, contrairement à souvent ce qu'on dit, la philosophie grecque implique des types très différents de philosophie morale. Les deux extrêmes, si vous voulez, ce qu'on voit, la morale épicurienne, la morale stoïcienne. La Grèce a enfanté ces deux, qui sont un peu les deux extrêmes, et qui se retrouvent un peu comme deux constantes. Ce sont les propriétés, j'allais dire, de l'activité morale. L'activité morale implique une certaine joie, l'accomplissement du travail, l'amour. Et puis, l'activité morale implique une responsabilité. Alors, on prend les propriétés pour en faire la structure. Toute la morale épicurienne est structurée sur la jouissance. Depuis la joie jusqu'à la jouissance charnelle. Et la morale stoïcienne est structurée autour de la maîtrise de soi. Donc la responsabilité. Et puis la morale grecque, la philosophie grecque se termine avec Plotin, qui est une morale, j'allais dire, diluée, comprenez bien, je ne dis pas assumée, mais diluée dans une attitude mystique. On glisse, c'est le propre du platonisme, du néoplatonisme, on glisse jusqu'à ce fait de ce qu'il y a de plus intérieur, de plus profond. L'union avec Dieu, l'énosis, cette union avec Dieu qui va faire que l'homme va comme un peu disparaître. Et c'est pour ça que c'est si curieux, cette mystique plotinienne qui est très belle mais qui peut être aussi terrible, parce qu'il y a comme une disparition de l'homme. Et on pourrait retrouver des choses très analogues dans l'Inde. Et ça, on a fait le parallélisme. On a fait le parallélisme entre Plotin et l'Inde, et on a fait des parallélismes entre Plotin et Hegel, ce qui est très curieux aussi. Plotin n'est ni l'Inde ni Hegel. Il a quelque chose qui est typiquement grec, mais il est comme un dépassement, un super stoïcisme. Le stoïcisme implique cette maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi pourrait aller dans un super stoïcisme, parce que Plotin c'est comme un super stoïcisme, on ne peut pas comprendre Plotin sans voir le stoïcisme, comme un dépassement dans un peu une perte de soi. L'union avec l'infini, l'un. Je n'insiste pas plus. Je voudrais maintenant très rapidement avec vous, parce que c'est peut-être, je dis c'est peut-être, le point de vue de la philosophie éthique qui est ce qui demeure le plus actuel à travers toute l'histoire de la philosophie occidentale. C'est pas la métaphysique. Quand Heidegger dit l'oubli de l'être, il veut exprimer quelque chose de vrai. Il y a un oubli de l'être. Tandis qu'on ne pourrait pas dire l'oubli du point de vue moral. Peut-être, sauf avec la philosophie contemporaine, la philosophie analytique. Dans la philosophie analytique, je crois qu'il y a la perte de l'homme, il y a l'oubli de l'homme, et donc il y a l'oubli du moral. Tandis qu'au contraire, Jusque-là, alors ça serait le phénomène ultime et dernier de notre philosophie occidentale, c'est l'oubli de l'homme, perte, l'oubli de Dieu, l'oubli de l'homme, le rejet de Dieu, le rejet de l'homme. Et alors à ce moment-là, il n'y a plus de morale. Dans la philosophie analytique, il n'y a plus de morale, ça c'est bien évident. Il n'y a plus aucun souci de ce que représente l'homme. Mais jusque-là, on pourrait dire que l'anthropologie va prendre une place toujours plus grande. Et alors, avec l'anthropologie, le point de vue de la philosophie morale demeure sous des modalités très différentes. Quand nous analysons l'acte humain, nous voyons qu'il y a toujours deux pôles dans l'acte humain, le point de vue de la réalisation artistique et le point de vue moral, proprement dit. L'activité artistique, nous le verrons, a comme source l'inspiration. L'éthique, proprement dite, a comme source l'expérience de l'amour d'amitié. Un peu comme les deux sources de notre activité morale. De fait, quand nous vivons concrètement, toutes nos activités ont un pôle artistique et un pôle moral. Assister à un cours pour un religieux, c'est premièrement moral. On doit assister au cours. Que ce soit ennuyeux ou amusant, peu importe, on doit y assister. Donc, activité morale dans l'obéissance. On peut assister à un cours matérialitaire, je prolonge mon sommeil. Pas toujours agréable parce qu'à côté de moi il y a quelqu'un qui remue, mais ça fait rien, je peux prolonger mon sommeil. J'assiste matériellement. C'est pas très moral, mais ça fait rien. Puis je peux assister en m'éveillant, en essayant d'éveiller mon intelligence. Et pour éveiller mon intelligence, pour m'empêcher de dormir, je prends des notes. Ça aide. Quand on ne prend pas de notes, il faut une très grande capacité de concentration. Les notes m'aident. Les notes, c'est une activité artistique. Vous n'avez qu'à regarder après un cours les notes que vous avez prises. C'est un beau tableau. Quelquefois, c'est un grimoire. Ça ne fait rien. C'est un beau tableau, n'est-ce pas ? Bon, c'est une activité artistique. Vous faites quelque chose. Et faire quelque chose nous réveille. Tandis que l'activité purement morale, c'est très rare que ça nous maintient éveillés, sauf s'il y a une très grande intensité d'amour. Comment on s'endort un peu. Tandis que l'activité artistique touche notre sensibilité et nous réveille. C'est pour ça que nous avons besoin d'une certaine activité artistique. Dans une communauté religieuse est fondamentalement morale, mais elle implique une activité artistique. Plus ou moins grande et plus ou moins artistique, mais c'est quand même une activité d'efficience. S'occuper des chaudières, c'est une activité artistique, c'est bien évident. Permettre que ça chauffe, c'est quand même une activité artistique. S'occuper de la cuisine, et ainsi de suite. Et après manger, c'est aussi une activité artistique. C'est liturgique et artistique. Ça doit être une belle liturgie, le réfectoire. Toutes nos activités humaines impliquent toujours un aspect artistique, un aspect moral. Et je crois que quand l'aspect moral prend tout, il y a un petit peu un ronron. Lénifiant, ou au contraire, très rude. Quand l'activité du facere l'emporte, il n'y a plus de morale. C'est très curieux de voir ça. Et ça, je crois que ce serait très intéressant pour étudier ce qui se passe un peu dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, je vais simplement indiquer des pistes de recherche dans une topique sur la philosophie morale. Nous devons le faire, même si nous ne le faisons pas tout de suite. Nous devons venir à la source, la philosophie grecque, et puis, regardez, le grand tournant de la philosophie dans le point de vue d'Occident. Vous savez bien, il y a deux grands tournants, Descartes et Hegel. Je crois que c'est les deux grands tournants. Bon. Descartes, le souci dominant de Descartes n'est pas la morale. Je ne crois pas. Descartes est un homme qui vit son temps. C'est pour ça que Sartre dit « Si Descartes renaissait aujourd'hui, il serait comme moi. » Il dit ça à peu près, Sartre. Il dit « Si Descartes vivait aujourd'hui, il serait athée. » Parce que la philosophie de Descartes conduit à l'athéisme. C'est assez bien vu. C'est Sartre qui dit ça, hein, dans sa préface sur la méthode du de la... sur la préface à l'égard du discours sur la méthode. Il reprend ça et il dit cela avec beaucoup d'acuité, parce que c'est une philosophie de l'idée. Et Descartes prétend avoir l'idée de Dieu, puisque par l'infini, par la liberté, il a l'idée de Dieu. Or, comme dit Sartre avec beaucoup de vérité, l'idée de Dieu est contradictoire. Je ne peux pas avoir l'idée de Dieu. Et c'est pour ça que Sartre fait là une critique très pertinente à Descartes. Si je mets comme prima de toute ma vie intellectuelle l'idée, je ne peux jamais parler de Dieu. Et j'ajoute, je ne peux même pas parler de l'homme. L'homme est plus qu'une idée. Et donc, si c'est l'idée qui mesure tout, au bout d'un certain temps, l'homme disparaît. C'est pour ça que la pensée dialectique et le développement de l'idée fait qu'on rejette Dieu et qu'on rejette l'homme et qu'on arrive au terme à la philosophie analytique. Il y a une logique interne, hein, ce qui est intéressant du reste, parce que nous aboutissons à ça aujourd'hui. Alors on est obligé de tout reprendre pour essayer de comprendre l'erreur. Mais il y a un engrenage de Descartes à Hegel jusqu'à la philosophie positive, jusqu'à la philosophie analytique. Une fois qu'on met le petit doigt dedans, eh bien vous y passerez. Jusqu'au bout. Je me souviens une conférence du père Dubarle à Fribourg, où certains l'avaient invité en étant persuadés que le père Dubarle ferait l'éloge de Hegel. C'était une recherche que certains théologiens moralistes faisaient à ce moment-là. Alors on avait invité le père Dubarle pour faire une conférence sur Hegel. Alors le père Dubarle a simplement dit: entrez dans l'hégélianisme, au terme, vous n'aurez plus la foi. C'était magnifique et c'était très juste. Vous entrez dans un engrenage, au terme, vous n'aurez plus la foi. Ça supprime la foi. Il n'y a plus de place pour la foi dans la philosophie hégélienne. C'est l'idée. La foi, c'est pas une idée. Le prima de la foi, le point de départ de la foi, c'est la pia affectio. C'est l'amour. Il n'y a plus d'amour dans la philosophie hegelienne. Il n'y a plus que la raison. Il n'y a plus que la dialectique. Et ça mange tout. Et vous ne savez plus où est Dieu, où est Hegel. Ça qui est le mieux. Vous ne savez plus, absolument pas. Est-ce que c'est Hegel qui est au-dessus de Dieu et qui est la dernière incarnation de Dieu? Quand il s'agit de la politique, on voit que c'est la Prusse qui est le sommet. Mais ce qui est très ennuyeux, c'est que ça continue après. Alors ça devrait s'arrêter. Et Hegel est le sommet. Le sommet de la Prusse, c'est Hegel. Et le sommet de la politique, c'est le sommet politique, c'est la Prusse. Et au plus intime de la Prusse, c'est Hegel. Il y a un sommet. Alors Dieu, évacué. Ça, c'est très juste. Je crois que c'est très, très vu. Descartes, Hegel, d'une certaine manière, Descartes et Hegel évacuent la morale. Et je crois que c'est ça qui est important à saisir pour nous. Descartes évacue la morale. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a un primat absolu de la liberté. L'amour, c'est uniquement au niveau sentiment, au niveau passionnel. Il n'y a plus d'amour volontaire. Il n'y a plus un amour spirituel. S'il n'y a plus d'amour spirituel et qu'on met la liberté au-dessus de tout, C'est par la liberté que je suis le plus proche de Dieu. C'est la liberté qui en moi est le trésor, le secret. L'homme se définit par la liberté. Descartes ne dit pas comme ça parce qu'il est croyant. Mais au fond, c'est ce qui reste de juste, du moins, c'est ce qui reste de logique dans sa vue. C'est que la liberté est vraiment ce qui est le plus profond dans l'homme, par où il est le plus proche de Dieu. On évacue l'amour. Si on évacue l'amour, et donc la finalité, il n'y a plus de morale. Donc, c'est le primat de l'idée. Et ça, vraiment, je crois qu'on peut dire que Descartes, c'est le primat de l'idée. On voit comment Kant va essayer, par tous les moyens, de sauvegarder la morale, parce qu'il est croyant. En tant que croyant, Kant ne peut pas dire que la morale est évacuée. Descartes ne le dit pas non plus, hein, mais son système le dit. Il ne faut pas l'oublier. Et là, Sartre a raison de mettre la différence entre le système de Descartes, l'intuition de Descartes, et lui. Il vit dans un moment où il ne peut pas se dire athée. Il est croyant. Mais sa philosophie conduit à l'absolu de l'idée. Kant va essayer de sauvegarder la morale. C'est peut-être la grandeur de Kant. Kant est plus réaliste que Descartes. Il est moins naïf. Descartes est terriblement naïf. Ça, il faut bien voir. Petit bourgeois naïf. Très, très naïf. C'est du reste pour ça qu'il a eu tant de succès. Tandis que Kant, lui, veut quand même montrer qu'il y a quelque chose que nous ne connaissons pas. Le nous-mêmes, hein, c'est comme la matière qu'on ne connaît pas et qui s'impose à nous. Et c'est là quelque chose quand même qui maintient un certain primat du réel. Mais ce primat du réel, il nous échappe complètement. Donc il est en dehors de la science, en dehors de la philosophie. Alors, il est affirmé, c'est déjà quelque chose, mais je ne peux pas m'en nourrir. Je ne peux me nourrir vraiment que des formes a priori. Vous voyez, la transposition des idées des formes a priori. Ce serait très intéressant à bien voir. Le primat des idées et des formes a priori, tout l'aspect transcendantal de la philosophie de Kant. Et c'est cet aspect-là qui montre comment la philosophie émerge encore. Au point de vue moral, Kant va essayer de redécouvrir la finalité. C'est sûr, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de morale sans une certaine finalité. Comment va-t-il redécouvrir ça? Alors, l'impératif catégorique, qui est la conscience de l'homme religieux, lié à Dieu. C'est Dieu qui va être le fondement de la morale. Et au fond, je crois que chez Descartes, c'est un petit peu ça. Si la morale existe, c'est parce que Dieu existe. Ce n'est pas l'homme qui fonde la morale, mais la morale est fondée en dehors de l'homme. Ça, c'est très curieux et c'est très intéressant de voir ça. Que la morale n'est plus fondée dans l'homme, elle est fondée en Dieu. Et chez Kant, c'est bien Dieu qui fonde la morale. Parce que l'homme, il obéit, il est soumis à ça. Sa conscience n'est une vraie conscience morale que dans la mesure où elle est une conscience religieuse. Et dans la mesure où il reçoit de Dieu la confirmation de l'impératif catégorique. C'est pour ça que c'est par l'impératif catégorique, c'est par la conscience morale qu'il rejoint Dieu. Et c'est Dieu qui fonde la morale. Donc le fondement de la morale est extrinsèque à l'homme. Chez Descartes, chez Kant. La morale de Kant, c'est une morale de l'impératif catégorique. Sous ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est le stoïcisme moderne. Vous voyez dans Épictète, qui est peut-être la forme la plus spirituelle hein, du stoïcisme, Épictète dit que ce qu'il y a de plus important dans l'homme, c'est de conformer sa volonté à celle de Zeus. Alors, à première vue, ça paraît extraordinairement beau et ça paraît chrétien. N'oubliez pas que Épictète, en l'an 50, après Jésus-Christ, il est à Rome. Hein? Donc, contemporain de Saul de Tarse. Tout à fait. On a un parallélisme qu'on peut faire. Dire que ce qu'il y a de plus absolu dans la morale, dans la vie humaine, c'est de conformer notre volonté, la proie irésis, conformer notre choix à la volonté de Zeus. Vous voyez que c'est très proche de ce que dit Kant. La seule différence, c'est pour que Kant, ce n'est plus le choix, c'est la constitution même de ma conscience morale. C'est ça qui fait la morale. C'est dans la mesure même où mon choix rejoint l'impératif de Dieu sur moi. Donc l'homme n'existe moralement que quand il est relié à cette volonté impérative de Dieu. Et pour Épictète, je crois que c'est un peu ça aussi. Donc on retrouve avec Kant une morale stoïcienne avec le primat de l'impératif catégorique. Une domination plénière de nous-mêmes pour toujours régler notre vie sur cette volonté actuelle de Dieu. Alors comprenons bien, hein, ne disons pas « Ah mais ça c'est chrétien !» C'est tout à fait autre chose, le christianisme. C'est pas du tout la même chose. C'est une réduction formelle du christianisme. Mais dans le christianisme, ce n'est pas du tout, l'abandon n'est pas du tout disparaître pour laisser l'impératif catégorique de Dieu sur nous, puisque l'impératif catégorique de Dieu sur nous, nous ne le savons pas. C'est la béatitude des cœurs purs et non pas la béatitude de l'impératif catégorique. Faites une béatitude de l'impératif catégorique. Je ferai toujours ce que Dieu veut sur moi. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est la volonté de Dieu? Vous pouvez savoir qu'une seule chose, c'est que vous avez le désir de conformer votre volonté à la volonté de Dieu. Mais vous ne savez pas quelle est la volonté de Dieu sur vous. Autrement, vous tombez dans l'illuminisme. L'illuminisme, c'est dire, oui, Dieu veut que je sois là, maintenant. Je le sais. Je suis téléguidé par Dieu. Il y a un ange avec son épée qui m'a poursuivi, j'étais obligé, hein, parce qu'autrement j'étais transpercé. Vous voyez, dans l'illuminisme constamment, ça, je suis poussé à ça, je sais bien que c'est ça. Bon, impérativement, confusion entre l'intention et le choix. Et dans le choix, ce côté impératif du choix qui est justement l'impératif catégorique. Donc c'est très important de comprendre cela, parce que je crois qu'avec Kant, on peut dire qu'il y a un stoïcisme qui renaît à l'intérieur du christianisme, mais qui est une formalisation du christianisme. Les formes a priori se retrouvent jusque dans l'ordre pratique. Et cette formalisation, c'est de confondre l'intention et le choix. Et de mettre l'absolu non plus dans l'intention, mais dans le choix. Or, le propre du christianisme, c'est de mettre l'absolu dans l'intention, et non pas dans le choix. C'est important qu'il y ait le choix, c'est bien évident, il ne faut pas que l'intention perde son intensité et devienne alors un dilettantisme, c'est bien évident, mais c'est quand même l'intention. C'est l'intention qui est l'absolu, c'est là où il y a la béatitude. Et non pas dans le choix. Mais c'est vrai, regardez tous les morales un peu stoïciennes. On voit très bien, il y a des morales chrétiennes qui sont à tendance stoïcienne. Ils mettent toujours, ils ont toujours la tendance de mettre l'absolu dans le choix. Retraite d'élection. C'est le choix. Alors on dirait, mais non, la retraite est faite prenant pour la purification de votre cœur. Retraite d'intention, purifier votre cœur. Et puis, les décisions, mais alors on met l'absolu sur l'élection. Vous voyez, c'est très intéressant de voir ça, parce que c'est Kant qui a fait ça. Il est en terre chrétienne, mais en terre protestante, et il recherche l'absolu dans la proie iressis, le choix. Et il met l'absolu dans l'impératif catégorique. Donc, on peut dire qu'avec Kant, on est en présence d'un néo-stoïcisme chrétien. Comprenez bien, un néo-stoïcisme chrétien. Mais il n'est pas vraiment chrétien. C'est le stoïcisme qui l'emporte sur le point de vue chrétien. Et alors, on ramène tout le point de vue de l'intention à l'impératif catégorique. Alors, n'oublions pas que Hegel, puisque c'est le troisième, Descartes, Kant, Hegel, cette trinité moderne, qu'il faut toujours bien voir, qu'il faut bien comprendre. Hegel est celui qui va lutter de la manière la plus forte contre Kant. Je crois qu'on n'a jamais injurié Kant aussi fort que Hegel. Ah vraiment, il faut l'entendre. Il faudrait le disque de temps en temps des engueulades de Hegel par rapport à Kant. Alors ça nous purgerait de tout Kant. Parce qu'il considère que Kant, c'est celui qui va tuer l'intelligent. Quand l'impératif catégorique devient si fort, vous êtes en face, vous voyez, de l'obéissance ad cadaver. Hein, c'est ça. Devenez un cadavre, on va vous pousser. Alors, il n'y a plus d'intelligence. C'est ça que Hegel a senti dans Kant. C'est que, de fait, l'impératif catégorique poussé jusqu'au bout, tuer l'homme, tuer l'intelligence, pour être uniquement un manœuvre de Dieu. Et donc, n'êtes plus du tout, hein, parce que l'Évangile dit « Vous n'êtes plus le serviteur, mais des amis. » Alors, vous êtes le serviteur dans ce qui est le plus absolu, le manœuvre de Dieu. Ça, je crois qu'il y a là quelque chose de très important, puisque Descartes, Kant, Hegel, c'est quand même pour nous une trinité, pour la plupart des intelligences d'aujourd'hui. Il y en a peu qui ont dépassé Descartes, il y en a peu qui ont dépassé Kant, il y en a peu qui ont dépassé Hegel. Il reste dépendant de ces trois. Et ces trois se tiennent. On peut dire que Kant est lié à Descartes et que Hegel est anti-Kant, mais il est encore lié à Kant. C'est très curieux. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas redécouvert le réel. Et il part encore de cette attitude réflexive sur nous-mêmes. Mais Hegel est tellement puissant, il faut bien reconnaître, c'est un génie. Je ne dirais pas que Kant est un génie, moi. Je ne crois pas. Tandis que Hegel est un génie, il est génial. Il est génial parce qu'il est capable de tout reprendre dans une perspective qui est la sienne. Qui n'est pas le réel, qui est l'attitude réflexive sur le développement même de l'intelligence, pris non pas comme intelligence, non pas comme le nous grec, mais comme la puissance vitale. Enfin, c'est tout cet aspect de la vie de l'intelligence, et c'est cet aspect de la vie de l'intelligence et de la croissance de l'intelligence qui l'impressionne. Et la dialectique, c'est la croissance de l'intelligence. C'est la croissance de la puissance vitale, spirituelle. L'esprit a quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'il peut se développer à l'infini. C'est merveilleux. Tandis qu'une plante, un arbre, un animal ne peut pas se développer à l'infini. Vous voyez un éléphant qui se développerait à l'infini. Tandis que l'esprit peut se développer à l'infini. C'est ça qui est extraordinaire. Et dans Hegel, il y a un développement à l'infini. C'est pour ça que le point de départ et le terme vont se retrouver. vous aurez le cercle. Et c'est un cercle, le point de départ et le terme. Vous prenez le point de départ, vous prenez le terme, vous retrouvez toujours la même chose, parce que c'est un développement sur lui-même qui se fait grâce à la négation, grâce au primat de la négation. Dans Hegel, l'homme disparaît. Mais l'homme disparaît d'une façon totalement différente que dans la philosophie analytique. Dans la philosophie analytique, il n'y a plus de place pour l'homme, parce qu'il n'y a plus que le fruit extérieur, le langage, pris pour lui-même. Il n'y a plus que l'œuvre. Dans Hegel, l'homme disparaît par le développement infini de la raison. Donc, l'homme disparaît en voulant se déifier. Il y a une noblesse beaucoup plus grande dans Hegel que dans la philosophie analytique. Hegel, c'est impressionnant, la philosophie analytique, bon, elle ne m'impressionne pas. Tandis qu'Hegel m'impressionne. C'est impressionnant, Hegel. Et quand vous mettez le petit doigt dedans, attention, tout va y passer. Et vous serez incapable de le juger au terme, parce que vous serez pris dans ce cercle infernal. Et c'est vrai, on est pris dans un cercle infernal, il y a une espèce de prise complète où le point de départ est le terme. Vous voyez, une fausse éternité, une fausse contemplation. Alors ce qu'il faut quand on est en face de Hegel, c'est de dire, où est le commencement de la philosophie hegelienne ? Posez-vous la question, quand vous voulez entrer un tout petit peu dans la philosophie hegelienne, quel est le point de départ? Et regardez si ce point de départ est juste. Si ce point de départ va vous faire découvrir quelque chose. Alors vous pourrez dire, il n'y a pas de point de départ dans la philosophie hegelienne, puisque c'est le cercle. Et que dans le cercle, le point de départ et le terme se réunissent. Donc, le point de départ, c'est quoi? C'est très intéressant comme question, hein. Vous croyez saisir un point de départ, et au fond, en réalité, c'est pas un point de départ, parce que c'est une espèce d'immanence complète dans un processus constant. L'homme disparaît. Y a-t-il une morale hegelienne? Posez-vous la question. Y a-t-il une anthropologie hegelienne? Kant, lui, est le premier à parler de l'anthropologie. Et donc, chez Kant, la morale prend tout. Ça, c'est vrai. La morale prend tout. Il y a la morale et aussi l'imagination créatrice. C'est les deux pôles intéressants et positifs chez Kant. Et les distingue. Dans la philosophie hegelienne, on ne peut pas dire qu'il y a de morale. Elle disparaît. Alors, il y a une analogie avec avec Plotin, le néoplatonisme. Et il y a une analogie entre les deux. Je me souviens, à Fribourg, de temps en temps, il y avait un professeur que je connaissais bien qui assistait au cours que je donnais sur Plotin. Et alors, à la fin du cours, il venait me dire « Comme ça me rappelle Hegel !» Alors, je lui disais « Mais c'est tout à fait différent. On est en climat grec et là, vous êtes en climat de... Mais c'est la même chose. » Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de commun. On pourrait dire qu'il y a une mystique naturelle. Et la différence de la mystique naturelle de Hegel, c'est que Hegel est en pleine possession de cette mystique. L'hegelianisme ne se termine pas par le silence, alors que Plotin s'achève par le silence. Alors, à partir de Hegel, on entre dans un nouveau monde. Ça, je crois. Hegel est un point d'orgue. C'est difficile de mettre un autre Hegel après Hegel. Très difficile. Parce qu'il y aurait deux dieux. Alors c'est très difficile. Donc, après Hegel, il n'y a pas possibilité d'avoir un autre Hegel. Je crois que c'est absolument impossible. Après la Prusse, pris au sommet de tout, il n'y a plus rien. Et c'est vrai, ça. C'est une espèce d'anarchie, après. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des essais de reprise, des essais de reprise de l'homme. Vous auriez deux aspects très intéressants à voir en parallèle. Kierkegaard et Nietzsche. Kierkegaard, en opposition avec Hegel, sauver l'homme, c'est le cri de Kierkegaard, hein, ça il ne faut pas l'oublier. C'est quelqu'un qui a compris que l'hegelianisme tuait tout, le croyant et l'homme. Alors Kierkegaard, il crie, c'est un cri de désespoir. Et Kierkegaard, lui, essaie de retrouver une morale. Ça, il faut le reconnaître. Mais c'est un essai de retrouver une morale à l'intérieur de la foi. Il est protestant, pas l'oublier. Donc, c'est à partir de la foi et non pas dans une expérience humaine. C'est ce qui est toujours difficile dans Kierkegaard, c'est que vous ne savez plus pas exactement est-ce que c'est un domaine de foi, est-ce que c'est un domaine de raison. On découvre les différents degrés, les différents niveaux. Face à Hegel, c'est très important. Hegel a tout nivelé, le bulldozer de l'intelligence, hein, ou le boa de l'intelligence. Il avale tout, Hegel. Et il prend tout. Et il nivelle, hein. On est devant une dialectique. Et la dialectique est une pensée qui a des niveaux différents, c'est bien évident, mais qui absorbe tout. Kierkegaard, lui, en face de cela, essaie de redécouvrir des niveaux d'intelligibilité. Donc il essaie de redécouvrir une certaine pensée analogique. Les niveaux d'intelligibilité, le plus et le moins. Il découvre que l'homme est d'abord un esthète, tout le niveau artistique, puis le niveau moral, puis le niveau religieux. Il y a quelque chose de grand dans cela. Au fond, c'est redécouvrir l'homme. Au-delà de la pensée dialectique qui uniformise, redécouvrir dans l'homme diverses activités à des niveaux différents. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il redécouvre la morale comme un au-delà de l'aspect esthétique et comme conduisant à l'aspect religieux. Sa réaction est importante, est intéressante, mais peut-être justement qu'elle n'est pas assez philosophique. Elle est trop religieuse, comprenez bien. Elle est trop dans la foi. Alors, il y a quelque chose qu'il n'a pas atteint pleinement. Parce que on passe de l'esthétique à la morale et de la morale au point de vue religieux. L'esthétique ne conduit pas à la morale. C'est un autre domaine. Alors, c'est pas, les plantes ne sont pas assez analogiques. On retrouve encore trop un ordre dans ces différents plans. Il n'y a pas un réalisme poussé jusqu'au bout. Mais c'est intéressant quand même de voir que la réaction de Kierkegaard en face de Hegel est une réaction qui veut sauver l'homme. Et ça, c'est important. Face à Kant, vous avez la réaction d'un Nietzsche. C'est les deux grandes réactions modernes. Alors Nietzsche est beaucoup plus radical que Kierkegaard. Kierkegaard reste un croyant. Nietzsche, très délicat de savoir s'il a perdu la foi ou pas, parce qu'il y a des positions diverses, mais ce qui est sûr, c'est que dans ses écrits, Nietzsche va beaucoup plus loin. Sauver l'homme par la création, par l'activité créatrice. Parce que c'est sauver l'homme aussi, lui. Hein. Comprenons bien, Kierkegaard veut sauver l'homme de ce naufrage terrible dans lequel le conduit Hegel. Il veut sauver l'homme. Nietzsche veut sauver l'homme. Et il sauve l'homme par la création artistique. C'est l'art qui permet de sauver l'homme. Et à partir de l'art, on va découvrir une nouvelle morale du surhomme, au fond qu'il n'a pas développé beaucoup, mais quand même qu'il veut annoncer. Au fond, il est resté à ce niveau artistique. Ce niveau artistique pris avec un absolu, niveau artistique de la création artistique. C'est la création artistique, je crois, qui commande tout Nietzsche. C'est un grand artiste, Nietzsche. Un grand artiste à sa manière, hein, un artiste assez particulier, mais c'est un artiste, hein, c'est un poète qui saisit que dans le point de vue artistique et grâce à l'inspiration, l'homme possède une autonomie totale. Il peut tout reprendre à partir de rien. C'est cette nostalgie de créer à partir de rien. Alors, créer à partir de rien, c'est justement tout reprendre radicalement. C'est en ce sens-là que c'est le pouvoir volontaire, la volonté de puissance, qui va être chez Nietzsche le point de vue si fort, si important. Il y aurait aussi, pour certains, c'est à se demander, je pointe un point d'interrogation, y a-t-il dans la dialectique de Marx un point de vue moral? Le père Cottier, lui, souligne beaucoup cela. Au fond, il y a une certaine éthique qui naît à partir de Marx. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, parce que ça, je crois que c'est quand même significatif. Face à l'hégélianisme, vous voyez que ces trois, si je prends ces trois, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, sont très très différents. Hein. Tous les trois désirent retrouver la morale à partir de l'activité artistique. Je crois que c'est ce qu'il y a de commun dans ces trois. Redécouvrir la morale à partir du facere. Le facere pris dans trois dimensions différentes. Le facere de la réalisation artistique chez Kierkegaard, une réalisation presque d'un art général. Nietzsche, c'est la création artistique, et Marx, c'est le travail, sa vision du travail. Je crois que de cette manière, on peut dire qu'il y a une certaine éthique marxiste. Mais il faut bien la comprendre, exactement comme celle pour Kierkegaard, comme pour Nietzsche, c'est une éthique qui est née du point de vue artistique. C'est qu'il faut refaire l'homme. L'homme se crée, l'homme se fait. Et donc sa morale, c'est à partir de ce fait qu'il se fait. Donc vous voyez, l'origine de la morale n'est plus la finalité, n'est plus l'amour. L'origine de la morale, c'est au contraire, à l'intérieur de l'homme, le pouvoir qu'il a de se recréer, de se refaire, d'échapper au hasard, d'échapper à toutes les contraintes. Je crois que c'est une morale qui naît à partir de cette activité artistique sous ses modalités différentes. Il me semble que c'est le caractère de ces éthiques, et c'est pour ça que la seule qui aboutit, c'est celle de Kierkegaard, celle de Marx n'aboutit pas, celle de Nietzsche n'aboutit pas, et celle de Marx n'aboutit pas. Chez Nietzsche, la création artistique enveloppe l'aspect moral, l'amour. Et chez Marx, la dialectique au niveau du travail, de la praxis, enveloppe le point de vue moral. La morale est limitée par la praxis. Et donc, en réalité, il n'y a pas de morale. Et ça, c'est encore plus net chez Marx que chez Nietzsche. Mais chez Nietzsche, c'est quand même présent. C'est la création artistique qui est quand même l'absolu. Vous voyez cette nostalgie de Nietzsche, hein ? C'est vrai que pour le croyant, le point de vue de la morale repose sur le fait que nous sommes des créatures de Dieu. Donc, la morale repose sur une activité artistique, qui est la création. Mais nous savons que cette activité artistique, qui est la création, est en même temps une activité divine paternelle qui nous communique la vie et l'esprit, en nous maintenant dans l'autonomie. Dans la mesure où vous laïcisez pleinement la création, l'acte créateur de l'homme enveloppe tout le point de vue de l'éclosion morale. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est présent dans Nietzsche. Donc il faut bien reconnaître cet effort qu'il y a de retrouver une morale chez Kierkegaard, chez Nietzsche, chez Marx. Je les mets exprès en parallèle. Voyez ensuite, hein, 3-3, c'est pas pour trouver toujours le nombre 3, mais c'est un fait. C'est un fait qu'il faut les voir un peu en parallèle. Dans une topique éthique, hein, on aurait un autre ordre si on regardait une autre topique, mais dans une topique éthique, je crois qu'on doit les regarder de cette manière-là. Il y aurait ensuite à se poser la question, est-ce que dans Freud, vous avez une nouvelle morale? Je crois qu'avec Freud, il y a négation totale de la morale. Je crois. C'est une question importante à se poser. Si vous voyez que la source de l'homme, hein, c'est le complexe d'Œdipe, c'est difficile de voir une naissance d'une morale à partir du complexe d'Œdipe. C'est difficile. Alors, c'est curieux, hein. La position de Freud est une position, je parle au point de vue philosophique, je ne parle pas de Freud en tant qu'individu, mais en tant que ce qu'il dit. Y a-t-il possibilité d'une nouvelle morale à partir de là? C'est inclinant.